France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'info. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Plus que jamais, la confusion règne en Iran, aux prises avec une vaste contestation populaire après les menaces répétées de Donald Trump ce week-end d'intervenir militairement. Le pouvoir à Téhéran s'est dit prêt à la guerre avant de confirmer ce matin qu'un canal de communication avait finalement été ouvert avec l'émissaire américain pour le Moyen-Orient. Décryptage à suivre dès le début du journal. On se rendra par ailleurs en Israël où les autorités ont décidé d'empêcher la venue de l'historien français Vincent Lemire. Nous serons également à Bruxelles pour une opération de protestation des médecins libéraux. On s'intéressera aussi à un premier traitement de fond contre le diabète. Enfin, avec notre invité, on parlera du lancement à partir d'aujourd'hui de la campagne de recrutement du nouveau service militaire volontaire voulu par Emmanuel Macron. Même si les Iraniens frappés par les restrictions économiques civiles ont beau se persuader aujourd'hui que les risques à prendre sont justifiés malgré les craintes d'une répression brutale qui a déjà fait au moins 200 morts et des milliers d'arrestations, réussiront-ils à obtenir pour autant un changement de régime significatif? Et d'ailleurs, combien sont-ils à aspirer réellement à un renversement total du pouvoir, ou dit autrement, et sans nier le rôle des indignations populaires dans les dynamiques démocratiques, jusqu'à quel point les manifestations de ces derniers jours témoignent bel et bien d'un espoir urgent, celui que cette contestation mène à la révolution. Alors c'est vrai que ce mouvement, initialement lié au coût de la vie, défie à présent ouvertement le pouvoir. La coupure d'Internet et de toutes les communications téléphoniques orchestrées par le régime depuis 4 jours complique malgré tout la lecture des événements. Sans doute qu'à minima, la République islamique se retrouve effectivement à l'heure des choix, comme c'était d'ailleurs déjà le cas il y a 3 ans. À cette nuance près, toutefois, que le nouveau gouvernement Trump semble bien décidé à réaffirmer sa suprématie régionale, et c'est ainsi qu'après les menaces d'opérations militaires brandies ce week-end par Washington, les dirigeants à Téhéran seraient prêts à négocier. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Une réunion serait même, dit-on, en préparation.
Écoutez, en réalité, les Iraniens expliquent que le canal de communication avec les États-Unis a toujours été ouvert, même si il avait été interrompu après la guerre de 12 jours de juin dernier et les bombardements israélo-américains contre le programme nucléaire de la République islamique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a le numéro de téléphone personnel de Steve Witkoff, le négociateur de Donald Trump. On sait aussi que traditionnellement, les messages adressés aux États-Unis passent indirectement par l'ambassade de Suisse à Téhéran, qui représente les intérêts américains, mais aussi par les diplomaties omanaises et qatariennes. Alors ce matin, Abbas Araghchi affirme que l'Iran est favorable à des négociations, je cite, équitables, avec des droits égaux et fondés sur le respect mutuel. Il ajoute que son pays ne cherche pas la guerre, mais est tout à fait préparé pour la guerre. Une posture classique de l'Iran qui a toujours plusieurs fers au feu et se dit prêt à toute éventualité, notamment celle de nouvelles frappes américaines et israéliennes. Les Iraniens disent avoir tiré les leçons du dernier épisode guerrier, mais ce en même temps est plus compliqué cette fois-ci, avec une contestation en interne réprimée dans le sang entre l'Iran et l'Amérique de Trump. La mère de toutes les batailles, c'est le programme nucléaire de Téhéran qui a été endommagé mais pas totalement détruit l'année dernière. Washington espère qu'une république islamique fragilisée de l'intérieur sera plus flexible dans les négociations. Depuis le début, les Iraniens répètent de leur côté qu'ils ne renonceront jamais à leur programme d'enrichissement, ce qui laisse à la diplomatie une ligne de crête périlleuse et incertaine qui dépendra de l'évolution à l'intérieur de l'Iran.
Merci Christian Chéneau. Et puis j'ajoute que depuis ce matin, la télévision d'État de propagande diffuse des images de milliers de manifestants à Téhéran en soutien au pouvoir. S'agissant toujours de la fuite en avant dans laquelle Donald Trump a choisi d'engager son pays, corps et armes, quitte à dynamiter l'ordre mondial, le locataire de la Maison Blanche a encore durci le ton hier s'agissant cette fois-ci de Cuba. Les États-Unis ont exhorté le pays caribéen à accepter un accord dont il n'a pas à préciser d'ailleurs la nature, avant toutefois de suggérer que son secrétaire d'État, Marco Rubio, devienne rien de moins que le président de l'île, de quoi susciter aussitôt la colère de son homologue à La Havane.
Et puis la colère se fait également entendre désormais aux États-Unis.
Oui, après qu'une Américaine de 37 ans a été abattue à Minneapolis la semaine dernière par un agent de l'ICE, des rassemblements ont été organisés partout dans le pays ce week-end contre la remise en cause de l'état de droit et les méthodes brutales de cette police fédérale de l'immigration, devenue le bras armé de l'offensive de l'administration américaine contre les clandestins, érigés en priorité nationale par Donald Trump, ce à quoi le gouvernement a d'ailleurs choisi de répondre par la surenchère en annonçant l'envoi de centaines d'agents fédéraux supplémentaires. supplémentaires.
La police israélienne a annoncé hier l'interpellation d'un proche de Benjamin Netanyahou.
L'actuel chef de cabinet du Premier ministre a été interpellé pour entrave présumée à une enquête. L'affaire porterait sur un document classifié présenté comme émanant du chef aujourd'hui décédé du Hamas et suggérant que le mouvement islamiste n'était pas intéressé par un cessez-le-feu et dont la fuite aurait pu être utilisée par le gouvernement pour étayer la thèse selon laquelle seule primait la pression militaire. Et puis toujours s'agissant de l'État hébreu, les autorités ont décidé d'interdire à l'historien français Vincent Lemire d'embarquer dans son avion vers Jérusalem. Celui-ci devait participer à une semaine de séminaires, de rencontres avec des Palestiniens et des Israéliens. Or, 4 jours seulement avant son départ, son visa a été purement et simplement annulé. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Jérusalem. Quand le chercheur est aujourd'hui accusé donc par les autorités d'être anti-sioniste, lui, Thibault, dénonce une censure d'État.
Oui, vous l'avez dit, l'annonce est tombée mercredi, 4 jours donc avant le départ théorique de Vincent Lemire. Le chercheur reçoit un mail. Il apprend alors que les autorités israéliennes lui refusent l'entrée sur leur territoire en raison, je cite, de changements de circonstances.
Aucune autre explication ne m'a été donnée. On a l'impression que les autorités israéliennes cherchent à régler leurs comptes, à se venger d'une certaine manière de toutes les voix critiques qui ont pu s'exprimer depuis 2 ans.
Rappelez-vous Thomas, il y a 15 jours, le ministère de la Diaspora a donné 2 mois à 37 ONG pour cesser leurs activités. Un des arguments avancés était la délégitimation de l'État hébreu. Alors pour Vincent Lemire, c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre son bannissement du territoire israélien.
Je partais là-bas pour une vingtaine de rencontres strictement académiques. Je ne suis pas un activiste, je suis un chercheur, je suis un scientifique. Je ne vois pas en quoi je légitime l'État d'Israël. Je suis extrêmement critique contre le gouvernement israélien actuel. J'ai effectivement considéré que certaines phases de la guerre menée à Gaza était une guerre génocidaire. J'ai essayé de documenter la réalité. C'est sans doute ça qu'on me reproche aujourd'hui.
Vincent Lemire a aussi soutenu la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Le chercheur a accompagné Emmanuel Macron lors du sommet de Sharm el-Sheikh pour la paix à Gaza il y a 3 mois. Sollicité, les autorités de l'État hébreu n'ont pour le moment pas expliqué leur décision.
Merci Thibault Lefèvre, en direct de Jérusalem. Vêtu de blouse blanche et calot de bloc vissé sur la tête, des centaines d'anesthésistes, de chirurgiens, d'obstétriciens libéraux ont quitté l'Hexagone hier pour un exil symbolique de 3 jours à Bruxelles. Une manière de protester contre la politique de santé du gouvernement français, en particulier s'agissant de la question du financement des dépassements d'honoraires indispensables selon eux pour la viabilité économique de leur activité. Puis parmi les autres griefs figure notamment une limitation des prescriptions d'arrêt de travail. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
En direct de Bruxelles. Alors, en réalité, cette opération s'inscrit plus largement dans un contexte de grève des médecins libéraux en France. Rappelons que la quasi-totalité des organisations de ce secteur ont appelé à cesser le travail entre le 5 et le 15 janvier. Et ce faisant, Fabien, cet exil symbolique est aussi une manière pour eux d'échapper aux réquisitions ordonnées par les autorités.
Oui, le plan n'a que partiellement fonctionné, hein, puisqu'entre l'annonce de la mobilisation et le départ effectif des médecins libéraux pour Bruxelles hier, plusieurs centaines d'entre eux ont tout de même été réquisitionnés par les autorités régionales de santé, un appel auquel ils n'ont pas pu se soustraire. D'autres ont tout de même pu arriver à Bruxelles, installés dans un luxueux hôtel pour quelques jours d'exil qualifié donc de symbolique, qu'ils comptent mettre à profit pour réfléchir à l'avenir de leur métier et pour faire des propositions au Premier ministre Sébastien Lecornu, qu'ils espèrent rencontrer à leur retour. Ces propositions portent surtout sur les dépassements d'honoraires qu'ils jugent légitimes au vu de la faiblesse des remboursements de santé par l'assurance maladie et les mutuelles, au vu aussi de la nécessaire prise en charge des 8 millions de patients, selon leur chiffrage, qui ne paient pas par manque de ressources. Selon la Fédération des cliniques privées, 80% des blocs opératoires privés seront fermés en France jusqu'à après-demain, avec en conséquence de nombreuses interventions chirurgicales qui devront être reprogrammer dans les prochaines semaines.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles.
L'Union européenne vient d'approuver la mise sur le marché d'un premier traitement de fond contre le diabète.
Oui, son nom, Tesail, ce médicament du géant pharmaceutique Sanofi, avait déjà été approuvé dans nombre d'autres pays, mais pas encore sur le vieux continent. Et c'est désormais chose faite. Hein, Schlegel, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors, administré en perfusion, ce traitement ne guérit pas à proprement parler, mais il ralentit la progression de cette maladie chronique en freinant la réaction auto-immune.
Oui, c'est un anticorps monoclonal développé pour les enfants à partir de 8 ans et pour les adultes. Il empêche le système immunitaire de détruire les cellules du pancréas. Le diabète de type 1 est en effet une maladie auto-immune. Elle se développe souvent au cours de l'enfance ou du moins assez tôt dans la vie quand le système immunitaire du patient se met à viser les cellules qu'on appelle les cellules bêta qui fabriquent de l'insuline indispensable à notre survie. L'approbation européenne du Tesaild s'est faite sur la base d'une étude produite par le laboratoire Sanofi, effectuée sur une petite centaine de patients menée en double aveugle. L'un des groupes prenant le nouveau médicament, l'autre un placebo. Dans le groupe soigné, l'évolution du diabète a été ralenti. Le passage au stade 3, qui nécessite une pompe à insuline en permanence, s'est fait environ 2 ans plus tard que pour les patients traités par placebo. C'est un gain substantiel en termes de qualité de vie, mais ce n'est pas encore la révolution tant espérée. Docteur Jean-François Thébault, vice-président de la Fédération française des diabétiques.
On a un processus qui préservera les cellules bêta. Donc c'est une voie de recherche formidable. Mais pour le moment, ça ne fait que retarder de 18 mois, maximum 24 mois. C'est déjà bien, me direz-vous, mais ce n'est pas encore le médicament qui va permettre de guérir le diabète de type 1 ou de prévenir définitivement le diabète de type 1.
Alors l'espoir réside beaucoup aussi dans les greffes de cellules bêta directement dans le foie. C'est une autre piste de recherche en cours en ce moment. En France, 2200 enfants de moins de 15 ans développent chaque année un diabète de type 1.
Merci, Tara Schlegel.
Midi passé de 41 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Le gouvernement lançait ce matin sa campagne en vue de recruter plusieurs milliers de jeunes pour un nouveau service national, une initiative annoncée en novembre dernier par le président Emmanuel Macron pour, je cite, répondre aux besoins des armées face aux risques accrus de conflits. Alors, une conférence de presse était organisée ce matin pour en préciser les contours. Estelle Camerer, bonjour.
Bonjour.
Ce nouveau service national d'une durée de 10 mois sera purement militaire. Il sera rémunéré 800 euros par mois minimum pour chaque volontaire. Les recrues serviront exclusivement sur le territoire national et le dispositif, Estelle, espère concerner la première année du moins quelques 3000 jeunes.
Les jeunes femmes et jeunes hommes de 18 à 25 ans. Un service national qui a pour ambition de devenir plus important chaque année. L'idée est de mobiliser 4000 jeunes en 2027 et 10 000 en 2030. Tous peuvent candidater sur Internet, par téléphone, en centre de recrutement et même sur Parcoursup pour les lycéens. Aucun diplôme n'est requis pour se porter candidat. La sélection se fera sur motivation, les aptitudes médicales aussi et les qualifications professionnelles. Pour certains volontaires qui auraient déjà commencé un parcours de médecin ou de technicien par exemple, les choix se feront aussi selon les besoins des armées, que ce soit dans des missions de cybersécurité ou même de boulanger. Le service débutera dès le 3 septembre prochain par une formation basique d'un mois avant de placer les volontaires pendant 9 mois. Ceux qui le souhaitent peuvent poursuivre dans les armées, dans la réserve ou dans la gendarmerie nationale et même ne pas continuer. Mais en cas de crise, chacun d'entre eux peuvent être rappelés, explique le chef général d'armée aérienne, Fabien Mandon.
Effectivement, si on subissait une crise très importante et qu'on ait besoin d'aide, par exemple dans le cas d'une catastrophe naturelle, porter assistance à une partie de notre population qui aurait de grandes difficultés, on se donne la capacité de rappeler des jeunes qui ont eu cette expérience, savent faire, et s'ils sont disponibles, ils nous prêtent main forte. C'est ça l'esprit.
Mais rien n'est obligatoire, a-t-il rappelé. Le service se veut réellement volontaire.
Merci Estelle Camerer. Alors ce nouveau service national prend donc la suite du SNU, conçu en 2017 par le même Emmanuel Macron, alors candidat à la présidentielle, comme un outil visant à renforcer la cohésion nationale. Cette fois-ci, il s'agira, selon l'Élysée, de répondre, je cite, au désir d'engagement de la jeunesse française et bien entendu d'adapter donc ce dispositif au changement de contexte stratégique depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Et pour tenter de mieux comprendre ces mutations, justement, du discours politique sur les armées, sur la guerre, invitée à présent de la rédaction Déborah Brostaud, chercheuse au Centre de recherche sur l'expérience de guerre à l'Université libre de Bruxelles, par ailleurs autrice d'un ouvrage intitulé « Les désirs guerriers de la modernité » paru l'an dernier au Seuil. Bonjour madame.
Bonjour.
Depuis ce matin, donc, La future recrue ou le simple visiteur, d'ailleurs, qui déciderait d'aller sur le site internet de ce nouveau service national sera immédiatement accueilli par un court texte qui vante notamment la possibilité de vivre une expérience, mais aussi une vidéo dans laquelle on voit se succéder sur un rythme assez soutenu différentes situations vantant l'effort physique, le dépassement de soi, l'esprit d'entraide, le tout sous l'égide d'un court slogan « Peux-tu le faire ?». Autrement dit, on reste là assez largement dans les codes de la communication des armées tels qu'ils ont été définis ces dernières années.
Oui, tout à fait. Mais alors, évidemment, je connais pas les effets que cette vidéo aura. Par contre, c'est vrai qu'on peut observer, en tout cas, les effets qu'elle cherche à susciter. Avec, comme vous le disiez, c'est intéressant de voir cette vidéo qui est donc traversée par une musique qui évoque le suspense et l'intensité. Ça pourrait être un peu une musique de film style James Bond ou peut-être d'une émission style Koh-Lanta. Et dans les images, donc des jeunes en treillis qui se livrent à des exercices militaires qui traduisent l'idée d'une expérience collective, à la fois grave et sérieuse, mais en même temps en partie ludique, avec quelque chose un peu des images de la guerre à l'ancienne, j'ai envie de dire, avec toutes des images de plein air, dans la boue, de feux de camp, etc. Donc comme si on essayait de nous dire qu'on contraste avec les images de la guerre high-tech qui sont très présentes ces derniers temps. L'expérience militaire restera aussi une aventure humaine à laquelle les Français pourront participer. Donc voilà, et évidemment la grande absente de cette vidéo, enfin le grand absent, c'est le contexte géopolitique où ce service est présenté comme quelque part une expérience en tant que telle qui viendrait répondre à des aspirations.
Effectivement, lors de la présentation des contours donc de ce nouveau service national, déjà en fin d'année dernière, Emmanuel Macron avait présenté ce nouveau dispositif comme une réponse de l'État à l'aspiration à la liberté, de même que à la soif d'engagement de la jeunesse. Comment faut-il comprendre cette idée que l'engagement dans l'armée interviendrait en réponse à un désir de liberté préalable donc dans la population ?
Mais c'est vrai qu'on retrouve en quelque sorte ce motif très macroniste d'un supposé désir de mise en mouvement de la jeunesse, avec la particularité qui se relie ici à l'idée d'un devoir, d'un service, voire même d'un sens du sacrifice. Et ce qui est important de rappeler, c'est que cet appel militaire à la jeunesse, il prend place dans un contexte qui est un contexte de crise qui est traversée par un spectre d'une génération sacrifiée, appauvrie, dont l'avenir serait bouché. Et c'est précisément dans ce contexte-là que l'armée est présentée comme un lieu d'aspiration. Et c'est important de rappeler que là, il y a une responsabilité politique.
Est-ce que ce thème, ce lien substantiel entre l'armée d'un côté et la nation de l'autre est de plus en plus souvent mobilisé justement dans les discours politiques ?
Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi ce lien entre armée et nation, et je dirais aussi entre citoyens et soldats. C'est une vieille histoire qui traverse toute l'histoire des nations modernes. Et c'est aussi l'histoire d'une tension entre, d'une part, liberté politique et de l'autre, des pratiques de subordination et de contrainte. Alors, je m'explique en deux mots. Si on va voir du côté des philosophes des Lumières, par exemple Kant, on trouve l'idée que pour que le pouvoir appartienne au peuple, il faut que le peuple ait le pouvoir sur la guerre et sur la paix. C'est-à-dire que si c'est lui qui doit faire la guerre, quelque part, c'est aussi lui qui doit pouvoir décider de la guerre. Mais en même temps, les armées modernes, c'est avant tout de redoutables dispositifs disciplinaires, pour reprendre un terme de Foucault, c'est-à-dire des institutions qui façonnent les corps et les esprits de manière à produire des corps qu'on pourrait nommer des corps dociles. Et en ce sens, l'incorporation des citoyens à l'armée, si ça permet peut-être d'augmenter le pouvoir de l'État, ça permet pas pour autant d'augmenter le pouvoir des citoyens. Et donc ici, c'est la question que je poserais de manière prioritaire, c'est-à-dire est-ce que quel pouvoir on a sur les choix de nos gouvernements de mener des guerres en nos noms, de décider quoi faire des armes, etc. Et il me semble pas que ce service national volontaire vienne ici augmenter le pouvoir des citoyens et le contrôle démocratique des décisions militaires.
Une dernière question, quelques mots s'il vous plaît. Vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, le rôle que jouent aujourd'hui les transformations du contexte géopolitique dans nos rapports collectifs à la guerre. Est-ce que cette nouvelle donne ne vient pas transformer peut-être aussi les mouvements pacifistes et la possibilité de la paix ?
Si, tout à fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup aujourd'hui que Il serait difficile aujourd'hui d'être anti-guerre ou pacifiste vu le contexte de tension internationale. Alors j'aimerais juste rappeler que, en fait, bien entendu, c'est difficile dans la mesure où les positions anti-guerre prennent justement leur sens dans des contextes d'exacerbation des logiques bellicistes. Et il s'agit, je pense ici, de se rappeler qu'il y a toute une histoire des luttes, en fait, contre aussi la place des armées dans nos vies, et que les logiques dans lesquelles on se retrouve et ce dont on hérite, c'est pas seulement des logiques militaires, mais c'est aussi l'histoire de ces luttes-là qu'il est important de réactiver malgré, bien sûr, toutes les difficultés que ça pose et dans lesquelles on se trouve.
C'est bien compris. Merci Déborah Brosteau, chercheuse, je le rappelle, au Centre de Recherche sur l'Expérience de Guerre de l'Université Libre de Bruxelles, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage publié l'an dernier au Seuil, Les désirs guerriers de la modernité. Merci également à Louise Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. De la pluie accompagnée de vent sur la moitié nord, les éclaircies devraient s'imposer au sud. Quant aux températures, elles sont comprises entre 6 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.